Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer sur l'actualité économique. Agathe Mpona Elema est au micro et Berry Franklin Loutchaka est là pour les nouvelles.
Un conflit prévaut actuellement entre la direction des recettes de la province orientale et la Fédération des entreprises du Congo en territoire de Haru. Sadala Chabani nous en parle dans quelques minutes. Et puis, depuis ce maïs dont du peuple japonais à la RDC qui est mis en vente à Kinshasa. C'est un reportage de Daniel Tembis venu à suivre dans son de cette émission.
Une seconde partie qui reçoit pour nous l'AMS Kamoignard, coordonnateur du projet Promine, qui s'entretient avec Julien Niamouni à Mbujimayi sur la tournée qu'il effectue dans tout le pays dans le cadre du projet d'assistance technique au secteur des mines. Ça vient de tomber ce soir, l'Assemblée nationale vient d'adopter le rapport de la commission mixte sur le projet de loi portant adhésion de la RDC à l'OADA.
Ceci après débat et délibération au niveau de la commission mixte politique, administrative et judiciaire et la commission économico-financière dont le rapport final vient d'être voté à la grande majorité par l'Assemblée nationale. Radio Capi est le premier sur cette information et il ne restera plus qu'au chef de l'État promulguer cette loi. Le vote a eu à l'instant même au Palais du Peuple. Rappelons que la semaine dernière, au cours d'un atelier organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec le COPIREP, les élus du peuple, membres de la commission ECOFIN et PAJ, étaient sensibilisés sur le bien fondé de l'adhésion de la RDC à l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires.
Et la réunion entre le ministère des Finances et l'intersyndicale des régies financières qui a avorté.
C'est pour la deuxième fois que cette réunion avorte. Annoncée d'abord pour le vendredi dernier, elle a été reportée pour ce lundi et aucune raison n'est avancée sur ce report. En revanche, une petite délégation de l'intersyndicale de la fonction publique a été reçue aujourd'hui par le vice-ministre des Finances. Joël Lungenza, attaché de presse du ministère des Finances, affirme que rien n'a filtré de cette rencontre.
Une semaine après le déclenchement de la grève dans les régies financières de Lubumbashi, les conséquences se font déjà sentir, Berry.
Certains importateurs de la place se plaignent de voir leurs marchandises traînées au poste frontalier de Kasumbalesa, au centre des captures pour l'acquisition des passeports biométriques. Difficile d'avoir des notes de perception que délivre la DGRAD et à la direction provinciale des impôts, les assujettis ne versent pas l'argent dans les comptes du trésor public.
Le procès en appel qui oppose le REGCOF et le REPRODOC aux quatre entreprises minières du Katanga s'est ouvert aujourd'hui.
Il s'agit d'Anvil Mining, de la société stockage pétrolière du Katanga, SPK en sigle, Chemaf et Congo Fret. Ces entreprises sont accusées de contribuer à l'implantation de la firme internationale Trafigura en RDC par le biais de sa filiale, la société stockage pétrolière du Katanga. À l'audience de ce jour, les avocats des accusés ont interjecté l'appel à la cour d'appel du Katanga sur la suspicion légitime du siège. Le tribunal de commerce a suspendu le procès en attendant que la cour d'appel du Katanga ne se prononce. Il faut rappeler que selon les réseaux des ONG du Katanga, RELCOP et REPRODOC, la firme Trafigura est réputée pour fraude fiscale, corruption, contrebande et pollution de l'environnement. Il n'est pas acceptable qu'on la laisse installé en RDC.
Direction Bakongo, où les hôteliers de la cité de Mwanda se disent victimes de tracasseries de la part d'un service appelé CDBERI.
C'est un service de renseignement militaire. Selon un hôtelier de Mwanda qui a requis l'anonymat, les responsables de ce service leur exigent des fortes sommes d'argent chaque jour pendant la ronde journalière qu'ils effectuent à travers tous les hôtels de Mwanda. Cet hôtelier affirme avoir posé le problème auprès du président de la FEC Mwanda et ce dernier a reconnu l'existence de ce problème et promet de saisir les autorités locales à ce sujet.
L'administrateur du territoire de Poueto justifie les tracasseries dont sont victimes les membres de la FEC locale, Berry.
Kipili Kiwele rejette en bloc toutes les accusations de la FEC locale en affirmant qu'il s'agit là pour punir des commerçants récidivistes. Il ajoute aussi que les biens saisis seront remis aux pauvres et veuves des militaires. Pour rappel, la FEC Poueto accuse l'administrateur du territoire de Poueto et les éléments de la police nationale de tracasseries dont sont victimes ses membres. Selon son résidence et depuis le jeudi dernier, lors du dégarpissement forcé des commerçants de l'ancien marché central vers le nouveau quartier Kabila, que les éléments de la police passent et ravissent par force des marchandises exposées au devant des magasins et boutiques des commerçants. Parmi ces marchandises, il y a notamment les paires de chaussures, les sacs de farine, les matelas et autres biens de luxe. Cette taxe inquiète beaucoup certains commerçants de Poitou et signe Amouli Famba.
La nouvelle économique au bout du fil.
Fanny Touré s'observe ce jour un bras de fer entre la Direction provinciale de recettes de la province orientale, DRPO en sigle, qui vient de s'installer en Ituri, avec la Fédération des entreprises du Congo en territoire d'Arou. La cause de ce conflit est le refus de la FEC de territoire à payer les frais d'importation de carburant opérés par les opérateurs économiques de ce territoire avant l'existence de ce service. Plus de détails avec vous, Sadala Chabani, vous revenez d'Arou. Sadala, dites-nous pourquoi la FEC de territoire d'Arou appelle ses membres au refus de payer ses frais d'importation.
Oui, Agathe, Monsieur Robert Amafi, président de la FEC du territoire d'Arou, précise que ces frais d'importation du carburant datent du mois d'août, période qui précède l'existence de la Direction provinciale des recettes pour la province orientale. Pour le président de la FEC en territoire d'Arou, la DRPO, qui s'installe dans cette entité territoriale, n'a pas les droits de faire payer des taxes sur des importations qui ont précédé son existence.
Sadala, mais dites-nous, à quelle période ces importations de carburant ont-elles été opérées en territoire d'Arou?
Oui, le président de la FEC en territoire d'Arou précise que ces importations dont la DPO exige le paiement des taxes à 350$ par 4 ans ont été faites pour la période allant du 24 août jusqu'à 10 décembre 2009, date de l'implantation des services de la Direction provinciale des recettes en province orientale dans ce territoire.
Et combien d'opérateurs de ce territoire sont-ils obligés de payer ces taxes d'importation de carburant?
Oui, le service des taxes provinciales, ancienne structure qui a précédé la création de la DRPO, a présenté au directeur de la nouvelle structure une liste de 24 opérateurs qui ont opéré des importations en cette période. Et il exige à chaque opérateur économique de payer $350 par importation.
$350 par importation. Comment le directeur des recettes en province orientale explique-t-il cette exigence imposée aux opérateurs économiques de Arou?
En réponse à cette question, M. Jean-Marie Mbende Moukala, directeur provincial de la DPO, a évoqué les dispositions de l'édit de l'Assemblée provinciale numéro 002/2009, dite mai, portant procédure de contrôle, de recouvrement des pots, des taxes et des droits provinciaux et locaux. Selon lui, cet édit autorise la direction provinciale de recettes de recouvrer ces taxes.
Merci à vous, Sadala Chabani. Espérons qu'un terrain d'entente sera trouvé entre les deux parties. Merci et bonne soirée à Bounia.
Écho, reportage.
Japonais donne à la RDC, fait un don de maïs à la RDC qui est déjà mise en vente dans les installations de la foire internationale de Kinshasa depuis le 29 novembre dernier. C'est un reportage de Daniel Tambizoni.
Nous sommes ici au pavillon 12 de la foire internationale de Kinshasa. Deux gros véhicules lourdement chargés viennent d'arriver en provenance du port international de Matadi. Les manutentionnaires s'adonnent au déchargement pour le lieu aménagé à recevoir plus de 130 000 sacs de 25 kg de farine de maïs achetés en Afrique du Sud, dont du peuple japonais au Congolais. C'est donc qui s'inscrit dans le cadre du fonds de contrepartie ne sera pas un cadeau, il a un prix, comme nous dit ici Madame Senga du ministère du Plan.
Le prix est fixé à $10 le sac de 25 kg et on leur demande de revendre à la population à $13.
La vente ici au dépôt est exclusivement ouverte aux opérateurs économiques pour un minimum de 2000 sacs. Alors, Comment ces distributeurs peuvent-ils procéder, Madame Senga?
Ça dépend, première catégorie, 2000, deuxième catégorie, 4000, 6000 par distributeur qui sont agréés au ministère du plan. Ils se font agréer d'abord et puis ils vont à la banque payer. On leur rétablit le bon d'enlèvement et c'est avec ce bon qu'ils viennent ici au dépôt pour retirer leurs marchandises. Depuis qu'on a commencé la vente, il y a au moins 45, il y a des grands distributeurs comme Diazol, Matumona, Nilou. Auprès de ces distributeurs, la population peut aller se procurer parce que ça se vend à 13 dollars le sac. Il y a même au niveau du marché de la Liberté.
Nous avons aussi trouvé sur place une distributrice venue retirer sa marchandise.
Nous avons la boutique de Rompoingaba, la boutique Sokomi Maison Mama Mika. Nous avons la boutique l'État a payé biso na 10 dollars. Pour y avoir un peu de 50 francs par sac pour la manutention. L'État a fixé ce prix à hauteur de 13 dollars. En francs congolais, c'est-à-dire 12 000 francs.
Les recettes courantes générées ces ventes serviront à financer les projets de développement socio-économique du gouvernement congolais dans le cadre justement du fonds de contrepartie. Le fonds de contrepartie, disons-le, est une structure du ministère du plan chargée de vendre tout ce qui est don accordé à la RDC. Sa gestion conjointe est assurée par le ministère du plan et le pays donateur représenté par son ambassadeur.
L'entretien de ce soir.
L'entretien de ce soir, c'est avec Lems Kamonia, coordonnateur du projet d'assistance technique au secteur des mines, en tournée dans tout le pays et aujourd'hui dans la capitale diamantifère. Pourquoi un projet d'assistance technique au secteur des mines? Lems Kamonia répond au micro de Julien Niamoni.
Depuis qu'on avait publié en 2002 le nouveau code minier, avec ces mesures d'application en 2003, on avait escompté beaucoup de choses dans les développements et l'avenir du secteur minier. Mais on se rend compte que 7 ans après, la plupart des attentes qu'on avait dans ce secteur ne sont pas encore réalisées et il y a des difficultés au niveau des institutions publiques, au niveau du gouvernement, d'arriver à faire en sorte que la façon d'assurer les suivis et la gouvernance du secteur minier pour qu'ils donnent des résultats à la hauteur des attentes, cette façon n'est pas encore assez efficace. C'est ainsi qu'on s'est dit. Il faut être aux côtés du gouvernement, essayer de voir dans quel domaine on peut lui apporter un appui, afin qu'il puisse administrer le secteur minier, afin qu'il puisse mettre en place des conditions voulues d'incitation et de sécurisation des investisseurs privés pour qu'on assiste enfin à une éclosion et à un développement du secteur minier.
Cela veut dire qu'il y a quand même des faiblesses qu'on observe dans le code minier qui a été promulgué par le chef de l'État.
Et vous savez, le code minier, c'est une loi, et toute loi est toujours sujette à modification. Donc le code minier dans ses lignes principales, il reste meilleur, un meilleur texte que nous avons par rapport à d'autres législations minières qui doivent être sûres. Sauf que, en tant que loi, dans son application, on va toujours trouver certaines petites failles. Et ensuite, vous savez, on a adopté, comme il y a en 2006, une nouvelle constitution qui a prévu la décentralisation. Cette constitution a été promulguée 4 ans après le code. Ce qui fait qu'il faudrait que le code, qui est une loi, puisse être cohérent avec la constitution qui est une loi fondamentale. Par exemple, doit corriger le code minier pour qu'il soit compatible à la fois avec la constitution et régler certaines faiblesses constatées.
À part ces faiblesses, dû peut-être la décentralisation, est-ce qu'il y a d'autres faiblesses légales?
La grande faiblesse qu'il y a, c'est que l'État n'est pas encore arrivé à appliquer de manière efficace et sur terrain tout ce qui est prévu dans les codes miniers et les mesures d'application. Je peux prendre l'État des cadastres miniers qui devraient être déployés dans certaines provinces, on constate que cette décentralisation n'est pas encore effective. On peut se rendre compte que les différentes directions qui avaient été qui résident aujourd'hui les secteurs des mines et des normatives, la plupart d'entre elles ne fonctionnent pas de manière efficace. Pourquoi? Soit par manque du personnel compétent, soit par manque des équipements, soit par manque de matériel. Ce sont ces faiblesses-là qui ont été inventoriées et pour lesquelles ce projet se propose d'aider les gouvernements à les résoudre de façon que la gouvernance du secteur soit efficace, transparente, à même de créer des revenus qui peuvent contribuer à la fois à la croissance et au développement économique social du pays.
En jetant, pourquoi un renforcement du dispositif de base à l'accès aux ressources de base, comme vous l'avez dit dans votre région?
Ça, c'est quelque chose d'important. Dans les codes miniers, on avait dit qu'on ne peut accéder aux ressources minières que celui qui dispose d'une capacité technique et financière éprouvée. Donc, quelqu'un qui vient, il a les moyens et la technicité pour développer les produits miniers. Je crois que vous-même, vous avez constaté, les gens disent que 33% de notre territoire national a été distribué sous forme de permis. Mais combien de nouvelles entreprises avons-nous pu voir naître dans le secteur? C'est une remise en question. Peut-être qu'on a accordé des concessions à des personnes qui n'ont pas vraiment des capacités techniques et financières pour mettre en place des grands projets miniers. Aujourd'hui, on doit rapporter pour savoir celui qui veut accéder, quelles sont les conditions qu'il doit remplir et des dispositifs pour qu'on se rende compte qu'effectivement, les concessions minières sont entre les mains des sociétés ou des personnes qui disposent de tous les atouts.
On dit souvent que l'État et autres redevances de l'État sont souvent sous-évaluées dans les secteurs miniers. Peut-on dire qu'avec ce projet, il y aura une amélioration?
Tout à fait. Dans ce projet, il y a toute une composante qui adresse ce problème, voir comment renforcer les dispositifs de perception des droits, taxes et redevances. Parmi les innovations du code minier, c'est le fait que ce code a prévu un régime fiscal qui lui est particulier. Mais c'est fait que ce soit au niveau des régimes financiers, la DGI, la DGRAD, le FIDA, les gens qui sont dans les circuits de perception, parfois ne connaissent pas toutes les mesures de la fiscalité prévue par les codes miniers. Il faudrait que l'État, qui a décidé de libéraliser le secteur, là où il y a des acteurs privés, il faudrait que ces acteurs payent les droits, impôts et taxes relevant qui vont permettre que l'État puisse les affecter aux projets d'infrastructure, aux secteurs sociaux comme la santé et l'éducation.
Je vous remercie.
Merci.
Écho d'économie, c'en est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à Willem Lungamba qui l'a mise en onde. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Bonne soirée chez vous.